On a pris l'habitude à cette émission que j'anime depuis au-delà de 30 ans maintenant, on a pris la bonne habitude quand on a des références de gens qui, à l'étranger ou tout simplement à l'extérieur de la région, accomplissent des choses particulières, spéciales, uniques, inédites. On a pris l'habitude de tenter de rejoindre ces gens-là et de leur parler, et c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé en parlant avec son père, Yvon, on s'est retrouvé à rejoindre Annie Dubé, qui est consul du Canada en Inde, à Mumbai en Inde, et on va aller lui parler à l'instant, elle est en ligne. Bonjour Madame Dubé.
Bonjour, comment ça va?
Ben ça va très bien. Vous êtes une fille née à Rivière-du-Loup, élevée, comme on dit, dans le KRTB, et vous vous êtes retrouvée en Inde. Bon, c'est tout un parcours, alors on va prendre ça du début. Je présume que quand vous étiez petite fille, votre rêve, c'était pas de devenir consul du Canada en Inde, là?
Non, je voulais être police, mais on dirait que ça n'a pas marché. quand j'ai fait mes études à l'Université Laval, j'ai un bac en administration, puis j'étais en train de faire ma maîtrise, mon MBA en gestion internationale. Et il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu as appliqué pour les jobs, les emplois? Puis j'ai dit, mais quels emplois? Ben, les emplois au gouvernement fédéral. Et j'ai découvert, le site c'est emploi.gc.ca pour ceux qui sont intéressés, mais il y a des emplois au service extérieur. Et j'ai trouvé ça fascinant. J'avais passé déjà 2 ans et demi en Afrique, en Afrique centrale, au Gabon. Puis je voulais retourner à l'étranger. Puis en fait, je voulais retourner en Afrique. Et je me suis retrouvée en Inde avec le service extérieur. Et j'ai joint le service extérieur en 2003, donc au ministère des Affaires étrangères du Canada. Et puis de là, j'ai eu quelques affectations, dont le premier poste était ici à Mumbai aussi. Ensuite, je suis allée à Séoul, en Corée du Sud. Et je suis allée à Berne, en Suisse, pour quelques années aussi.
Toujours pour le gouvernement du Canada?
Toujours pour le gouvernement du Canada.
OK. Né à Rivière-du-Loup, et ensuite, là, la progression sur le plan académique s'est passée par quel endroit? Parce que tout à l'heure, hors des ondes, vous m'avez dit, oui, né à Rivière-du-Loup, après déménager à la Pocatière.
Oui, en fait, né à Rivière-du-Loup, on a vécu quelques années à Saint-Antonin, à Notre-Dame-du-Portage, on a fait une année. Ensuite, la Pocatière pour 5 ans, 5 années. Puis ensuite, je suis allée vivre à Lévis de l'adolescence, à peu près 13 ans, là, jusqu'à ce que je finisse mes études universitaires.
Ouais. Est-ce qu'il fallait ou est-ce qu'il faut encore avoir l'âme voyageuse pour occuper une fonction comme celle-là et surtout toutes les autres occupées avant? Parce que là, on s'aperçoit qu'il fallait quand même avoir un peu beaucoup le goût de vivre à l'extérieur du pays pour occuper toutes ces fonctions-là.
Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire, sauf que je trouve que avec les technologies, on a l'impression d'être beaucoup plus proche des autres pays, on les comprend plus, il y a beaucoup plus d'informations qui est disponible, mais il y a rien qui change l'opportunité d'aller voir pour nous-mêmes ce qui se passe dans les autres pays. Il y a souvent des personnes qui ont dit que Mumbai, par exemple, ne peut pas être expliqué, ça doit être vécu. Il faut venir et prendre l'expérience de nous-mêmes. C'est chaotique, ça sent étrange, c'est différent, il faut goûter à la nourriture, il faut voir comment le trafic se passe ici, la pollution, et comment il y a un dynamisme fou. Et c'est difficile de faire passer ce message-là par une recherche Google ou par...
Faisons la différence entre un consul et un ambassadeur. Quelle est la différence entre les deux?
Si je commence du début, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques gère les relations diplomatiques entre les pays signataires. Et donc, il y a 100 quelques pays qui ont signé et il y a des titres diplomatiques spécifiques. Un ambassadeur ou un haut commissaire est dans la capitale du pays. Un haut commissaire, ça va être dans les pays du Commonwealth. Donc, l'Inde est un pays du Commonwealth, donc la capitale de l'Inde est Delhi, et ce serait un haut commissaire qu'on a là. Les consuls généraux, comme dans mon cas, ce sont les chefs de poste dans les endroits où on a décidé d'avoir une grande présence pour des raisons économiques ou politiques ou autres, et qu'on voulait s'assurer de pouvoir engager le pays de façon efficace, mais ce n'est pas dans la capitale du pays. Mumbai, c'est plus le centre financier et économique de l'Inde, mais ce n'est pas la capitale politique. C'est pour ça qu'on a un consulat général ici et que je suis ici comme consul général et non comme ambassadeur ou commissaire.
Oui. Lorsqu'on va faire un peu de recherche et comptable, justement, que ce soit le consulat du Canada ou le consulat de la France, on donne toujours les motifs principaux, si on veut, des relations entre les pays ou dans le pays pour lequel on a choisi, là, pour de bonnes relations, d'avoir un consulat. Entre le Canada et l'Inde, ça repose sur quoi précisément?
Les relations commerciales sont la première raison pourquoi on a une présence dans l'ouest de l'Inde. Les relations commerciales entre le Canada et l'Inde, c'est 9,4 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Et en plus de ça, on parle d'à peu près 2 milliards d'échanges en services. Et donc, la relation commerciale étant la 10e plus importante pour le Canada, c'est très important. En plus de ça, on regarde nos intérêts à amener plus d'étudiants étrangers à étudier au Canada, parce que vous savez que les retombées économiques pour le Canada sont très importantes d'avoir des étudiants étrangers. Ils vont se loger, ils vont devoir s'habiller, ils vont devoir manger, et tout ça a des répercussions sur l'économie, en plus de payer des frais d'étudiants étrangers dans les institutions où ils vont aller. On a à peu près 200 000 étudiants indiens à ce moment en Inde, et c'est notre source la plus importante d'étudiants étrangers en ce moment, l'Inde. Et en plus de ça, on a une présence pour soutenir les Canadiens en détresse quand ils sont à l'étranger. J'ai perdu mon passeport, je me suis fait voler mes cartes de crédit, j'ai pas accès, j'ai perdu mon cellulaire, je peux plus parler à personne. Donc, les services consulaires du gouvernement du Canada sont là pour assister, pour s'assurer que les Canadiens puissent retourner chez eux avec les bons titres de voyage et de s'assurer qu'ils ont accès à des fonds tout en s'assurant les bonnes communications avec leurs familles aux besoins.
À Rome, on vit comme les Romains. En Inde, est-ce qu'on doit vivre comme les Indiens quand on est consul?
Ça dépend. Mon mari est indien, donc... Donc, peut-être que j'ai à vivre un peu plus comme les Indiens, mais non, on n'est pas obligé. J'adore l'Inde, c'est fascinant, c'est coloré, c'est goûteux. Je me suis mariée en Inde, je me suis mariée à Delhi, et d'avoir de la famille ici en Inde, je trouve que c'est un peu plus chez moi que si j'avais, comme quand j'étais en Corée ou en Suisse, où j'avais pas de famille nécessairement. Par contre, c'est quand même un endroit qui est très hiérarchisé. La société est très hiérarchisée, donc il y a des statuts qui sont liés. Et donc, les gens s'attendent pas à ce que je m'habille avec les vêtements plus traditionnels ici, malgré que c'est très confortable et avec la chaleur qu'il y a, ça vaudrait peut-être la peine que je commence à porter les vêtements plus traditionnels
ouais,
ici.
Ouais. Maintenant, le statut de la femme en Inde, comment vous le décririez et comment avez-vous dû modifier peut-être certains comportements, si comportements à modifier il y a eu, bien sûr, là?
Si vous avez parlé à mon père, il va sûrement vous dire qu'il nous a souvent dit, quand on a grandi, de ne jamais être dépendante d'un homme. Et ça, c'est quelque chose que je prends à cœur de plus en plus aujourd'hui. Je vous ai mentionné que mon mari est indien, ça veut dire que mes enfants sont indo-canadiens. Ma fille, je veux pas qu'elle ait à se battre pour quelque chose pour lequel j'ai pas eu à me battre. Et la situation de la femme en Inde, c'est pas comme au Canada. C'est très différent. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans les dernières années. Par contre, il y a encore des situations où la préférence d'avoir un fils est très prononcée, parce que c'est le fils normalement qui va aller avoir un emploi quand il va être plus grand, puis c'est lui qui va pouvoir subvenir financièrement à ses parents, parce que les parents, quand ils vieillissent, c'est le fils qui va s'en occuper financièrement. Tandis que la fille est encore perçue dans certains endroits de l'Inde comme un... financièrement, c'est trop lourd à supporter, donc il essaie de s'en débarrasser à travers le mariage. Et donc, c'est pour ça qu'il y a encore la pratique de dowry dans certains endroits.
Et ça, dans la vie familiale, est-ce qu'on a fait consensus là-dessus? Parce que vous dites, mon père m'a appris certaines choses, je veux les transmettre à ma fille, sauf que la culture indienne est dans votre famille aussi. Est-ce qu'on a dû faire certains consensus?
C'est une bonne question, parce que c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer à toutes les femmes que je rencontre ici.
Ouais.
Si on sait ce qu'on veut, on s'assure te mettre ça très clair avant d'embarquer dans la relation. J'aurais pas marié mon mari s'il s'attendait à ce que je me comporte comme une bonne femme au foyer qui sert ses besoins.
Ouais.
Mon mari travaille de la maison. Il a un travail à temps plein et tout, mais quand les enfants reviennent de l'école, c'est mon mari qui est là, c'est pas moi.
Mm-hmm.
Et je sais que les Indiens ici trouvent ça très difficile et leur perception est que ben mon mari doit pas avoir beaucoup de succès parce que ben, c'est moi qui travaille.
Oui.
Et donc comment
vous l'avez parce que c'est fascinant ce côté-là des affaires, puis en même temps c'est très personnel. Mais comment vous l'avez rencontré en travaillant là-bas finalement?
Oui, ben ma première affectation était ici en 2005.
Oui.
Et il était employé du consulat général du Canada à l'époque.
Bien. Est-ce que, en Inde, vous savez, c'est pour nous les Québécois, parfois c'est presque folklorique. Lorsqu'on est là-bas, c'est une autre affaire. La vache qui est un animal sacré en Inde, est-ce que c'est toujours aussi présent et ancré ça cette croyance-là?
Oui, si on regarde la population, il faut penser à l'Inde comme l'Europe fois 10. C'est plusieurs cultures très différentes,
ouais,
qui se sont rassemblées il y a un moment pour devenir un pays. Et 80% de la population à peu près est de religion hindoue. Et les hindous ont comme croyance que ben la vache est sacrée. Et donc 80% de la population, c'est quand même pas rien. Puis il y a 13% de la population qui est musulmane. C'est le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde, et c'est pas un pays qui est à prédominance musulmane. On pense souvent aux pays musulmans du Moyen-Orient et autres, mais l'Inde est le pays où il y a le plus de musulmans. Et je trouve ça fascinant de voir comment les gens cohabitent, et il y a certaines tensions des fois entre les communautés, mais tout ça fait que l'Inde a une capacité de revenir ensemble pour le bien,
ouais,
de l'Inde.
Ouais.
C'est fantastique.
On parle quand même de près de 19 millions d'habitants en Inde. C'est énorme, là.
19 millions, même 20 millions à Mumbai seulement.
Oui. 19 milliards d'habitants, là. Je pense que j'ai oublié de mettre un zéro. Madame Dubé...
En fait, c'est 1,1 milliard 360 millions. Et dans les 4 à 5 prochaines années, l'Inde va surpasser la Chine en termes de population.
Oui, et c'est une puissance économique émergente, l'Inde. Il faut le considérer aussi, là.
Tout à fait. Leur croissance annuelle est entre 7 et 7,5 % du PIB annuellement. C'est un pays qu'on doit vraiment considérer pour les affaires, les compagnies canadiennes. C'est un grand pays de consommation, à peu près entre, les estimés sont difficiles à voir, mais entre 300 et 500 millions de personnes qui font partie de la classe moyenne.
Mm-hmm.
Ça, c'est-à-dire que ce sont des consommateurs de produits, donc on peut considérer l'Inde comme un grand marché de consommation pour nos produits canadiens. Il faut vraiment considérer l'Inde. Je pense que jusqu'à maintenant, le Canada a été un peu gêné. On a à peu près 1000 entreprises canadiennes qui font affaire avec l'Inde en ce moment, mais on en veut beaucoup plus. On est encore juste à la surface des relations, je pense.
Ouais.
Il y a beaucoup plus qu'on peut obtenir.
En terminant, Annie Dubé, est-ce qu'il y a des défis professionnels qui vous attendent? C'est-à-dire que est-ce que la fonction que vous occupez présentement, c'est une fonction que vous aimeriez pouvoir occuper pendant encore très longtemps, ou est-ce que vous souhaitez et vous tentez d'obtenir d'autres défis?
En fait, c'est un passage. On est ici pour un temps spécifique. Donc, j'ai un autre 2 ans à faire en Inde et je suis vraiment intéressée à voir les relations grandir de façon significative. Après ça, je sais pas ce qui va être. Le service extérieur, c'est la beauté, c'est qu'on doit bouger à chaque 2 à 4 ans. Et je dois vous donner une petite anecdote. On a beaucoup de Dubé dans le bas du fleuve et je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de Dubé en Inde aussi, de l'état du Uttar Pradesh. D-U-B-E ou D-U-B-E-Y. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, les gens pensent que je suis mariée à un Indien. Et quand je leur dis oui, ils disent « Ah oui, à cause de votre nom. » Je dis « Non, ça c'est le nom de mon père. » Et là, ils sont tout confus.
Ouais.
Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de Dubé ici en Inde. Et je trouve ça, je trouve que c'est une anecdote intéressante.
Mais cette affirmation-là amène une question. Est-ce que dans l'arbre généalogique des Dubé, il faut remonter jusqu'en Inde ou c'est absolument rien à voir?
Ça n'a rien à voir parce que en 1660, Mathurin Dubé a fait le voyage de la France vers le Québec et s'est établi, je pense que c'était Rivière-Ouelle, si je me trompe pas.
Ouais.
J'ai peut-être la place, j'ai peut-être pas la bonne place, mais dans le Bas-Saint-Laurent, Mathurin Dubé s'est établi là et depuis, on est entre 15 et 20 000 Dubé en Amérique du Nord qui sont descendants directs de Mathurin Dubé. Et ça n'a rien à voir avec l'Inde.
Hey, merci beaucoup, Annie Dubé. Ça a été très, très, très intéressant. Puis c'est une belle conversation qu'on a eue là. Au plaisir.
Merci beaucoup, Daniel.